Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier jour de juin et pour un sujet qui est particulièrement d'actualité puisque nous allons parler de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Et pour en parler, je suis évidemment en compagnie de Michel Phélep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée de mission animation territoriale au sein de la direction chargée de l'urbanisme, des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et à nos côtés, en plateau, Pascal Laurie. Bonjour Pascal.
Bonjour Johanna.
Vous êtes vous conseiller information géographique et spatiale auprès de la directrice de la DGALN et vous êtes tout particulièrement en charge du projet de dispositif de mesure de l'artificialisation des sols dont vous êtes le directeur. Vous n'êtes pas seul, en tout cas physiquement vous l'êtes, mais on a quand même quelqu'un avec nous. C'est Philippe Loriot qui est par téléphone. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargé de mission auprès du directeur de la DDTM de la Gironde et vous êtes lauréat de la dernière saison de la Fabrique numérique des ministères en charge de l'écologie et des territoires avec le projet SPART, le service de portrait de l'artificialisation des territoires que vous nous expliquerez dans quelques minutes. Mais avant, on va faire le tour de la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Et je vous le disais en intro, aujourd'hui on va parler de l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. La mise en place de cet observatoire avait été annoncée en 2018 dans le cadre du plan biodiversité. L'observatoire a été lancé un an après, c'était en juillet 2019, et mobilise aujourd'hui plusieurs partenaires aux côtés des ministères en charge de l'écologie et des territoires, comme le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et aussi l'IGN, le CEREMA, l'INRAE. Et nous allons voir comment, après près de 2 ans, le projet s'est construit, comment il fonctionne aujourd'hui et quel est son programme de déploiement. Mais avant qu'on entre dans le détail de cet observatoire de l'artificialisation des sols, une fois n'est pas coutume, eh bien nous allons nous tourner vers Michel Phélep, puisque vous avez une annonce à nous faire, Michel.
Oui, Johanna, je profite de l'émission ce matin pour faire une annonce qui concerne la démarche Habiter la France de demain. Ce n'est pas sans lien avec l'émission d'aujourd'hui d'ailleurs, car un des enjeux de cette démarche concerne bien la sobriété. Sobriété dans l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les sols, dont il va être question ce matin, mais aussi la sobriété énergétique, la sobriété carbone et la lutte contre l'érosion de la biodiversité.
Si je me souviens bien, Habiter la France, on en avait déjà parlé, Habiter la France de demain d'ailleurs, c'est son nom complet, lors de l'émission du 11 mars dernier, émission qu'on peut d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site et sur tous les agrégateurs de podcasts.
Oui, en effet, Johanna, nous avions vu alors que cette démarche correspondait à 4 défis, la sobriété que j'ai déjà citée, mais aussi la résilience, l'inclusion et la production. Mais je ne vais pas refaire ce matin cette émission. Et l'annonce que je dois vous faire concerne aujourd'hui le lancement par le ministère chargé du logement d'une démarche de concertation pour approfondir les attentes des citoyens sur leur cadre de vie. L'objectif, c'est de prendre en compte les aspirations de tous et prendre en compte également les défis écologiques à relever pour parvenir à une vision partagée de ce que doivent être la ville, le quartier, le bâtiment et le logement de demain. Bien sûr, il s'agit aussi de tenir compte des évolutions induites par la crise sanitaire dans la relation des Françaises et des Français à leur logement et leur cadre de vie. Et donc, une plateforme vient d'être mise en ligne pour une première phase de consultation. Elle s'adresse à toutes et tous et j'invite donc tous nos auditeurs à y participer et je vais vous poster tout de suite le lien vers la plateforme dans le chat. Des ateliers citoyens sont également prévus en juillet pour approfondir les éventuelles divergences entre les aspirations de chacun et les défis écologiques à relever. Et enfin, à la rentrée, l'analyse de toutes ces réflexions permettra de rendre publique une vision partagée entre citoyens, professionnels, collectivités sur ce que doit être habiter la France de demain. On refera peut-être d'ailleurs une émission, Johanna.
Eh bien, on pourra, évidemment, puisque le programme a l'air vaste. Merci, Michel. On va passer maintenant au sujet du jour, l'Observatoire national de l'artificialisation des sols. Et pour démarrer, mais on va poser les contours, définir ce sujet avec vous, Pascal Laurie. Est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi il est question exactement quand on parle d'artificialisation des sols ?
Eh bien, Johanna, vous touchez au cœur du sujet. L'artificialisation n'est pas encore définie, mais paradoxalement, la lutte contre l'artificialisation des sols n'est pas une histoire nouvelle. L'Europe s'est fixée dès 2011, en fait, une feuille de route pour lutter contre cette artificialisation des sols, avec un objectif de zéro artificialisation ZAN, zéro artificialisation nette ZAN, également appelé, en 2050. L'ONU également, dans son ODD, objectif de développement durable, donc le numéro 15, s'est assigné de restaurer les terres et sols dégradés et de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres d'ici à 2030. Alors aujourd'hui, on peut imaginer de plus en plus distinctement ce que sera notre planète en 2050 si nous continuons à consommer les terres au rythme actuel. La biodiversité sera encore plus affaiblie, concentrée dans des espaces de plus en plus réduits, sous une pression toujours plus grande. Les risques environnementaux seront plus aigus, avec des inondations de plus en plus fréquentes, sous le coup de l'imperméabilisation des sols. L'autonomie alimentaire sera mise à mal par une consommation des terres les plus fertiles. Et les citoyens, eux également, seront encore plus éloignés en périphérie, émettant toujours plus de gaz à effet de serre pour rejoindre leur lieu de travail ou leurs autres lieux de vie. Alors heureusement, et pour être un petit peu plus optimiste, en France, donc, il y a une prise de conscience croissante de ces enjeux. De nombreux textes ont été produits sur le sujet ces dernières décennies. Et donc le plan biodiversité, donc, vous le rappeliez, de juillet 2018, a considérablement réactivé la lutte contre l'artificialisation des sols. Puis la Convention citoyenne également pour le climat s'est emparée de la question en 2020. Et donc aujourd'hui, on a ce projet de loi climat et résilience donc, qui est en discussion au Parlement. Donc il vise à limiter l'artificialisation des sols et aboutir à terme à l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci. Donc en recherchant un équilibre, en fait, entre la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la préservation de la biodiversité et de la nature en ville, et évidemment la protection des sols. Alors j'en viens à votre question, Johanna, la définition. Donc dans le projet de loi, il est justement prévu une définition de l'artificialisation des sols, qui est appréciée au travers de l'occupation ou de l'usage qui est fait de ces sols et de leur impact sur les fonctions de ces derniers. Donc je tiens à préciser tout de même que le texte entre en examen au Sénat actuellement et que je ne pourrai pas répondre aux éventuelles questions le ciblant très précisément.
En tout cas, on a une idée déjà des enjeux hein, qui ont été posés. On a bien en tête hein, cette ambition du zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, hein, qui est dans ce projet de loi climat et résilience. Et on se dit que pour bien lutter contre l'artificialisation, il faut pouvoir la mesurer de manière fiable. Alors pourquoi est-ce si compliqué ?
Eh bien, oui. Alors, outre la difficulté de l'absence d'une définition précise actuellement, l'artificialisation est un phénomène diffus, en fait, hein, qui représente, alors, certes, environ 23 000 hectares par an qui sont artificialisés, donc en France en 2019, qui ont été. Alors, nous pourrions dire que c'est peu, finalement, rapporté à la superficie totale du territoire national. Mais les impacts, en fait, sont extrêmement forts et ils sont souvent irréversibles. Et de plus, entre 2009 et 2019, c'est tout de même l'équivalent de la superficie du département du Rhône qui a été consommée. Alors, pour mener à bien la politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols et suivre ses impacts, il est donc effectivement indispensable de bénéficier d'un dispositif de mesure qui soit fiable, précis, homogène sur le territoire national et donnant des indications d'évolution de l'artificialisation à un rythme régulier. Alors, c'est effectivement compliqué. À la DGALN, donc en coordination avec le CGDD et le ministère de l'Agriculture, donc nous construisons ce dispositif depuis 2018, donc en nous appuyant sur nos opérateurs, hein, vous les avez rappelés, IGN, CEREMA, INRAE. Et donc on a des premiers indicateurs de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont disponibles sur le site de l'Observatoire. Hein. Alors j'en profite pour rappeler son URL, donc artificialisation.biodiversité-tous-vivants-en-un-seul-mot.fr. Alors ce portail web, il diffuse des états annuels de consommation des espaces qui reposent pour l'instant donc, sur des données issues du retraitement de ce qu'on appelle les fichiers fonciers, avec un historique donc, qui remonte à 2009. Et ce sont ces fichiers qui vont nous permettre de mesurer la nécessaire réduction de 50% de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour les 10 années à venir. Donc réduction qui actuellement est inscrite dans le projet de loi qui entre au Sénat. Alors néanmoins, pour mesurer un phénomène aussi ténu et clairsemé, il est indispensable de disposer également d'une base de données d'occupation du sol à grande échelle. Car nous devons aller plus loin avec des données géographiques cohérentes avec la définition de l'artificialisation qui est en train de se construire. Donc c'est la raison pour laquelle la DGALN s'est engagée dans la production de données OCSGE.
Alors qu'est-ce que c'est que cette petite bête, ces données OCSGE? Bon, je suppose que ça veut dire quelque chose, ces lettres.
Ça veut effectivement dire quelque chose. Donc c'est un référentiel d'occupation du sol à grande échelle, donc une base de données vectorielle. Donc c'est là où je vais rentrer un petit peu dans la technique. Donc cela décrit l'occupation et l'usage du sol de l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer. Son modèle, en fait, dispose de deux dimensions. Donc il sépare l'occupation du sol de l'usage du sol. Alors si je prends un exemple simple pour bien comprendre cela, donc l'exemple d'un aéroport par exemple. Alors l'occupation va distinguer les hangars, les pistes revêtues et puis les étendues herbacées environnantes, éventuellement peuplées de lapins par exemple. Pour sa part, l'usage englobera l'ensemble de ces objets dans une même entité qui s'appellera donc transport aérien. Donc on a bien ce distinguo entre la couverture, donc l'occupation d'une part et l'usage d'autre part. Donc la précision de cet OCSGE est métrique, donc elle s'appuie sur le référentiel à grande échelle, le RGE. Les unités minimales de cartographie, donc les petites unités, sont de 200 m² pour le bâti et 500 m² pour le reste en zone urbaine. Donc ces informations sont principalement issues de photographies aériennes, donc qui sont mises à jour tous les 3 ans. Et elles ont donc une cohérence temporelle avec ces dernières. Les millésimes successifs de cet OCSGE donc, nous permettent de quantifier et de qualifier les évolutions du sol. Et c'est bien ce qui est pour nous le plus important.
Et maintenant, on sait pourquoi il y a tant de petits lapins au bord des routes, près des aéroports. Donc Pascal, vous utilisez des photographies aériennes pour avoir suffisamment de précision sur l'occupation du sol. Comment est-ce que vous faites pour les analyser, les interpréter? C'est beaucoup de travail, ça demande aussi beaucoup de technique sans doute.
Alors oui, tout à fait. Donc la chaîne de production de l'OCSGE s'appuiera sur une infrastructure dotée de capacités de calcul importantes et d'un espace de stockage permettant d'héberger et de traiter des données volumineuses. Donc une expérimentation est déjà en cours avec le développement d'un prototype de base de données OCSGE sur Arcachon et Blaye en Gironde. Et ce prototypage vise à optimiser la chaîne de production actuelle afin de parvenir à une automatisation la plus grande. Alors pourquoi une automatisation la plus grande? Parce qu'il s'agit de répondre à deux objectifs. Une réduction significative des coûts en minimisant la part de photo-interprétation humaine, qui coûte cher, et une diminution notable des délais de production permettant de produire un tiers de la France tous les ans en régime de croisière. Donc pour ce faire, il est fait appel à des procédés d'intelligence artificielle de type deep learning.
On suppose que toute cette technique sera ensuite transparente pour l'utilisateur. Et justement, est-ce que ces données sont aujourd'hui disponibles? Est-ce que tout le monde y a accès ou est-ce que c'est réservé à certains?
Alors non, ce n'est pas réservé à certains. Donc le prototype d'Arcachon, il est testé auprès des collectivités locales et services déconcentrés de l'État, donc afin de valider d'une part la fiabilité des résultats et d'autre part sa capacité à mesurer l'artificialisation des sols. Donc la direction des territoires, la DDTM 33 et le CIBARVAL, donc le SCOT d'Arcachon, ont été les premiers utilisateurs de cette nouvelle OCSGE, donc issue d'intelligence artificielle. Cependant, il faut rappeler qu'environ 30% du territoire national est déjà couvert ou en cours de couverture par l'OCSGE, produite selon des procédés traditionnels. Donc il y a déjà de nombreux autres utilisateurs.
Et on comprend qu'il y en aura de plus en plus, hein, puisque oui. L'idée, c'est de mailler l'intégralité du territoire national. Est-ce que vous avez un calendrier de déploiement prévu ?
Oui. Alors, le prototypage d'Arcachon fournira ses résultats en juillet 2021. Donc, on approche, là, c'est très bientôt. À l'issue de cette période, donc, la mise en place de la chaîne de production sera testée sur un département complet. Et le département pilote retenu, c'est le département du Gers, en Occitanie. Ensuite, le déploiement national donc, pourra se mettre en place et la production industrielle donc, s'engager de façon à viser une couverture progressive du territoire national. Alors, ce que l'on vise, c'est 35 départements produits en 2022, 50 départements en 2023 et 15 au premier trimestre 2024. Et donc, 2 millésimes de ce référentiel au CSGE seront à chaque fois produits et l'ensemble de ces données donc, seront diffusées en open data.
En tout cas, on voit bien que tout ça, c'est un projet très ambitieux. Comment est-il porté et puis comment est-il financé au niveau national ?
Alors, le projet est financé par l'État, notamment grâce au fonds de transformation de l'action publique, donc le FTAP, pour lequel la DGALN donc, a été lauréate en octobre 2020. Le projet est porté au plus haut niveau, notre directrice générale bien sûr, mais également l'exécutif du gouvernement avec le ministère de la Transition écologique. Il sera labellisé Grand Projet numérique de l'État en juillet prochain, donc à l'issue du prototypage d'Arcachon. Alors, vous l'avez dit Johanna, donc le projet est très ambitieux, car il combine à la fois innovation technique et production industrielle. Donc il va s'agir de produire d'ici à mars 2024 donc 2 millésimes consécutifs d'OCSGE, principalement grâce à des processus d'intelligence artificielle. Donc il y a un certain nombre de défis techniques là-dessus, donc sur l'intégralité du territoire national. Il va aussi falloir s'articuler avec les productions déjà existantes d'occupation du sol à grande échelle, produites de façon traditionnelle. Cependant, les défis vont au-delà de la technique. Le projet il doit répondre à l'ambition du projet de loi Climat et Résilience et contribuer par son apport à connaissance à effectivement équilibrer l'artificialisation des sols dans le cadre du zéro artificialisation net, le ZAN.
Merci Pascal pour toutes ces explications. On va maintenant donner la parole à Philippe Loriot qui est toujours avec nous. Vous êtes là Philippe ?
Oui, Johanna, je suis là. Ah, mon micro est activé, on dirait. Non.
Et Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'utilité de ces données sur les territoires ?
Oui, Johanna, écoutez, elles viennent nous aider à parler d'un langage commun sur un sujet très très conflictuel, l'artificialisation du territoire. Alors, il faut imaginer, par exemple, autour de la table, un agriculteur qui veut vendre une parcelle constructible, un élu qui veut développer son territoire, un bureau d'urbanisme qui veut vendre une prestation, les associations de défense des écrevisses qui ne veulent pas qu'on touche aux zones sensibles, les techniciens de la collectivité qui veulent engager un projet en respectant les textes de loi et vouloir en faire plaisir à tout le monde. Et tous parlent de consommation d'espace, d'artificialisation ou d'urbanisation ou que sais-je, mais ni en parlant de la même chose, ni avec la même vision de ce que c'est. Et ensuite, arrivent les services de l'État avec un S, qui confrontent le projet de territoire avec leur vision, encore avec un S, leurs interprétations, toujours avec un S, des textes évoquant la sobriété foncière. Et au final, tout ce petit monde s'écharpe sur la floutitude des textes, et ça finit souvent au tribunal, en appel, etc.
Ça sent un peu le vécu, votre histoire, Philippe.
Absolument, oui. Ce que je viens de vous décrire, et ça ne se passe pas que en Gironde, hein, c'est un peu mon quotidien en tant que chargé de mission consommation d'espace et numérique auprès de la direction de la DDTM de la Gironde. Et par exemple, c'est arrivé en Gironde sur le SCOT du territoire du bassin d'Arcachon, un territoire, comme on peut l'imaginer, à fort enjeu. Dès son approbation, le SCOT a été attaqué à la fois par des associations locales et par l'État, en particulier parce que son bilan de consommation d'espace avait été jugé trop favorable à une urbanisation future. C'est arrivé encore dernièrement, par exemple, même si c'est encore en cours de jugement, au PLUI de la métropole toulousaine. Donc on voit que c'est des choses qui arrivent assez souvent. Donc procédure longue, SCOT annulé, territoire passant en urbanisation limitée, tout ça, ça fait tout ce qu'il faut pour mettre de l'huile sur le feu entre l'État et les collectivités. Alors, pour éviter que ça recommence, au lancement du nouveau SCOT, le SCOT a invité à plusieurs reprises autour de la table les services de l'État, le bureau d'études, le département, la région, le GIP littoral, le CEREMA, le CAUE et plein d'autres gens pour que chacun donne son avis sur la manière de construire le bilan des 10 dernières années de la consommation d'espace du territoire. On imagine bien le temps, l'argent et l'énergie perdus sur les flous qui ne vont pas toujours dans le bon sens pour la sobriété foncière.
Et du coup, c'est à partir de ce constat que vous avez imaginé le projet SPART, qui, je le rappelle, a été retenu pour un soutien de la fabrique numérique des ministères chargés de l'écologie et des territoires.
Tout à fait, oui, c'est à partir de ce constat, mais aussi du contexte nouveau. Pascal l'a déjà évoqué, mais l'actualité n'échappe à personne en ce moment. Le texte de loi Climat et Résilience va enfin légiférer sur une définition de l'artificialisation, mais aussi on va enfin disposer d'une donnée nationale permettant une approche fine et directe de l'artificialisation sur l'ensemble du territoire, le CSGE dont Pascal vient de nous parler. Alors un texte, une définition, une donnée nationale, un observatoire national de l'artificialisation, il ne manquait que SPART, le service numérique permettant d'ancrer cette observation au niveau local pour éclairer les projets de territoire. Vous avez un projet, bienvenue sur SPART, le service de portrait de l'artificialisation des territoires. Adossé à l'Observatoire national de l'artificialisation, SPART permettra à un utilisateur d'obtenir un portrait contenant un rappel des attendus réglementaires, une description quantitative de l'artificialisation et de son évolution à travers des indicateurs pertinents, des cartographies, des chiffres, des tableaux, etc., adaptés au territoire et au projet, et s'appuyant sur les données disponibles partout sur le territoire national. Et donc SPART, au final, permettra d'appuyer une analyse qualitative du territoire et sa projection vers demain sur une base solide, documentée et partagée.
Donc si on comprend bien, SPART va en quelque sorte digérer et mettre à disposition les données de l'Observatoire aux utilisateurs dans une forme qui sera tout de suite utilisable et communicable.
C'est exactement ça, oui. Aujourd'hui, les utilisateurs, et ils n'ont pas tous beaucoup de moyens, doivent d'abord explorer l'observatoire pour en connaître le contenu, s'interroger sur les indicateurs qu'ils doivent mettre dans leur bilan, etc., etc. Et souvent, il y a très très peu de personnes pour s'occuper de ça. Hein. Demain, l'utilisateur choisira un territoire, un intervalle de temps, 1 an, 6 ans, 10 ans, en fonction des besoins en cours. Et SPART lui fournira les données de l'Observatoire national de l'artificialisation, le CSGE, les fichiers fonciers, pour générer un document décrivant l'artificialisation actuelle, son évolution dans le temps et les déterminants de cette évolution, démographie, emploi, habitat, etc.
On en est où aujourd'hui de SPART ? Est-ce que le service sera bientôt disponible ?
Oui, tout le monde me demande ça, mais ça fait que 2 mois que la Fabrique numérique a lancé sa 4e saison, dont SPART est lauréat. Et là, nous sommes dans une phase d'approfondissement de l'idée pour valider avec les futurs utilisateurs les attentes, les contraintes, la faisabilité et de compléter l'idée. Je suis accompagné par un coach produit qui me déconstruit un peu le cerveau pour que SPART ne soit pas seulement... issus de mes idées, mais des besoins de tous les utilisateurs potentiels. Voilà. Et donc, nous menons des interviews avec les acteurs d'aménagement des territoires, par exemple des élus, collectivités, services de l'État, bien sûr, mais pas que, des bureaux d'études, EPF Normandie, agences d'urbanisme, conservatoire du littoral, enfin voilà, un panel d'acteurs assez important. Et cette première phase va prendre fin d'ici à la fin du mois de juin. Elle sera suivie par une phase de construction d'une maquette prototype, sans doute sur le territoire du bassin d'Arcachon. On peut se voir pourquoi, puisque l'OCSGE a été testé, prototypé sur le bassin d'Arcachon, donc on va profiter de cette dynamique. Et puis à l'automne, par une phase début 2022, par une phase de développement, sans doute là aussi sur le département du Gers, pour les mêmes raisons, avant un déploiement national, si tout se passe bien.
Bon, ça va arriver très vite. Merci Philippe Loriot pour cet éclairage très concret. Alors, on va passer aux questions des auditeurs. Mais juste avant, je crois, Pascal, que vous avez, vous aussi, une annonce à nous faire.
Eh oui, un scoop. Oui, en effet, Johanna, donc à l'attention des auditeurs qui veulent en savoir davantage, nous organisons un webinaire sur le même sujet, donc le 6 juillet, de 10h à 12h. À cette occasion, donc, nous présenterons le prototypage de production de données d'occupation du sol donc, sur Arcachon, réalisé par intelligence artificielle. Et ce webinaire, évidemment, est ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. Donc nous vous partageons, je crois, en ce moment, le lien d'inscription dans le chat.
Et voilà, ça arrive sur les commentaires. N'hésitez pas à les regarder et à cliquer pour vous inscrire. Merci beaucoup, Pascal Laurie, Philippe Loriot, pour vos présentations. Alors, vous ne bougez pas, hein. Vous restez bien avec nous, puisque nos auditeurs ont des questions pour vous.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Michel, je vous laisse nous donner les questions des auditeurs pour nos invités.
Oui, Johanna, on a déjà quelques questions. Je rappelle en préalable qu'on ne pourra pas répondre aux questions d'ordre juridique, par exemple, qui sont liées à la loi climat et résilience, qui est toujours en examen au Parlement, comme la question de Samuel sur le bilan d'artificialisation, l'opposabilité du bilan d'artificialisation des sols. Ce sera peut-être pour une prochaine émission, quand la loi sera adoptée. Et donc, nous allons prendre une autre question qui concerne les observatoires et données existantes dans les échelons régionaux ou locaux. Quelle convergence avec les observatoires et données existantes dans les échelons régionaux ou locaux ? Pascal.
Alors, c'est un peu, ça revient à la question de l'articulation donc, entre les observatoires locaux et l'observatoire national, donc une question qui revient régulièrement. En fait, cette articulation, elle peut se réaliser à différents niveaux. Donc, on a déjà mis en place hein, des groupes de travail, notamment sur le prototype d'Arcachon. On avait réuni un certain nombre de parties prenantes autour de la table pour le sujet des indicateurs, les indicateurs socles à faire figurer sur l'observatoire de l'artificialisation. On a aussi mis en place un groupe de travail donc, qui réunit un certain nombre d'utilisateurs locaux, nationaux, hein, à chaque fois. Donc ça, c'est un premier niveau. Il faut aussi rappeler que le choix de la nomenclature pour l'OCSGE, donc c'est une nomenclature qui est conforme à la directive européenne INSPIRE, qui est déjà partagée, qui a déjà été largement partagée au sein du CNIJ, qui a émis des recommandations sur le sujet dès 2014. Cette nomenclature, également, il fallait pour nous, c'était important qu'elle soit en même temps adaptable pour pouvoir répondre à la définition qui est en cours de stabilisation dans le cadre du projet de loi. Voilà. À noter également au niveau de cette nomenclature, c'est une nomenclature emboîtée, donc elle peut se raffiner localement. Donc on peut imaginer que on a un socle national et puis localement on veut aller plus loin. Donc on peut, par ce phénomène d'emboîtement, raffiner la nomenclature nationale. C'est déjà d'ailleurs en cours dans certaines régions. Après, il y a aussi des possibilités de passerelles. Il y a aussi des études en cours sur le sujet entre les nomenclatures locales et les nomenclatures nationales. Il y a un certain nombre de bureaux d'études qui peuvent plancher sur le sujet. Toujours au niveau de cette articulation, donc Philippe a parlé de l'application SPART, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est aussi un pas qui est fait vers les utilisateurs au niveau local. Et puis à noter que dès cette année, nous aurons aussi une application donc, qui sera aussi accessible à partir du site de l'Observatoire et qui fournira des tableaux de bord par territoire, donc SCOT, département, EPCI, qui seront issus, eux, des fichiers fonciers et donc qui seront mis en place, qui sera mis en place dès 2021.
Michel, une autre question ?
Nous avons une question de Serge hein, qui nous demande comment le prochain territoire, le GERS, pour l'OCSGE, pour la production de l'OCSGE, a-t-il été choisi ? Et peut-être qu'on suppose que Serge est intéressé de savoir comment vont être déterminés les prochains territoires qui vont être couverts, puisque vous avez dit que 35 départements seront produits en 2022.
Alors, sur le choix du département du Gers, donc on avait une demi-douzaine de candidats, de départements candidats, donc portés par des collectivités, portés par des services déconcentrés de l'État. Il y avait au préalable un certain nombre de critères techniques qu'il fallait remplir, donc disponibilité de données, notamment d'une prise de vue aérienne récente et de son orthophotographie, donc j'espère que je vais pas trop loin dans les détails techniques, de modèles numériques de terrain, de surface, donc un certain nombre de préalables techniques. Et puis après, parmi ces candidats, on a examiné aussi un petit peu les territoires, il fallait pas tout de suite de se donner un défi monumental pour le premier département complet à affronter, du type, par exemple, haute montagne. Donc, entre les départements, les différents départements, techniquement, dont la candidature était techniquement recevable, on a aussi regardé cet aspect-là de la difficulté à réaliser sereinement la couverture du département en question, quoi. Alors, parmi les départements, oui, il y avait un second volet dans la question. Les premiers départements de 2022 qui vont être produits en 2022. Donc, écoutez, moi, je ne sais pas de quel département vous êtes issu, mais vous pouvez toujours essayer de porter une candidature. Les départements qui étaient déjà candidats vont passer dans les premiers départements à produire donc en 2022, mais il y a encore de la place. Hein. Allez-y.
Donc Serge ne nous dit pas de quel département il est, mais il est en effet bien intéressé à faire partie des prochains.
Ah, ça y est, nous le dit. Pyrénées-Orientales.
Oui, donc c'est un peu la montagne. On va prendre une autre question, une question de Samuel qui nous demande si la nomenclature pourrait prendre en compte les friches agricoles qui sont un enjeu majeur identifié par les services de l'État.
Alors, c'est un sujet compliqué. Les friches agricoles, d'ailleurs, je connais assez peu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse isoler facilement cet objet-là dans la nomenclature du CNIJ. Ce serait à investiguer. J'ai pas la réponse comme ça immédiatement. C'est vrai que nous, sur le sujet de l'artificialisation et de la lutte contre l'artificialisation, on s'intéresse avant tout aux friches industrielles. Déjà artificialisés, sur lesquels on peut n'ayant pas d'impact, notamment sur l'étalement urbain. Je pense que c'est un point à investiguer. J'ai pas la réponse en direct là aujourd'hui.
Merci Pascal. Alors on va peut-être prendre une question pour Philippe, pour changer. Une question d'Hélène qui demande si Sparte sera disponible dans d'autres régions et quel est le calendrier de déploiement.
Oui, le but du jeu, c'est effectivement que Sparte ne soit pas un outil girondin. Hein. Sa vocation à être adossé à l'Observatoire national de l'artificialisation. Alors évidemment, ça devra suivre le déploiement de l'OCSGE, hein, puisque une des données en entrée sera l'OCSGE. En fin d'année, là, j'espère bien avoir un prototype sur le territoire du bassin d'Arcachon. En début d'année prochaine, sur le département du Gers, hein, qui est un département test sur lequel en plus il y a un SCOT qui démarre sur presque tout le département, donc voilà, c'est un département, un projet sensible. Après, le calendrier exact de déploiement, on en est qu'au tout début, donc je peux pas promettre à nos auditeurs un déploiement total de Sparte France entière au deuxième semestre 2022. Surtout qu'il n'y aura pas de CSGE partout encore, mais on espère bien avancer vite, oui.
Merci Philippe. Et donc on va prendre une autre question sur le zéro artificialisation net. Comme le zéro artificialisation net est une démarche qui vise à renaturer d'anciens espaces artificialisés, cet observatoire sera-t-il en capacité de faire un suivi détaillé de ce qui a été consommé, mais aussi de ce qui a été renaturé ?
Alors, suivre le ZAN, c'est suivre autant l'artificialisation que la désartificialisation. Nous, on a bien cette ambition-là d'observer ce qui se passera dans les deux sens, quoi, hein, pour bien suivre cette trajectoire de ZAN jusqu'en 2050. Donc, oui.
La réponse est donc oui, pour rassurer notre auditeur. Une question qui vient de tomber. Oh là là, il y a des questions très longues qui sont en train de tomber. Alors, d'une question de Anne qui nous dit que quand il y aura plusieurs départements produits, est-ce qu'il y aura une communication nationale au-delà de la méthode sur les chiffres, comme la comparaison entre le pourcentage d'artificialisation entre différents départements? Et ça pourrait être divergent avec des chiffres locaux qui se basent par exemple sur des bases d'OCS locales très adaptées au territoire. Donc c'est toujours une question d'articulation en fait avec les observatoires locaux dont on a parlé déjà tout à l'heure.
Oui, alors la non-convergence de données tentant de mesurer l'artificialisation, c'est pas nouveau, ça existe déjà. On a Corinne Landcover, on a Terre-Utile Lucas, on a les fichiers fonciers, on a des bases de données locales. Tous ces outils mesurent déjà l'artificialisation des sols, avec, on l'a déjà dit, des définitions qui sont parfois variables, des méthodologies aussi, et puis des outils de mesure également. Donc après, il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Corinne Landcover, c'est très bien pour faire des statistiques à l'échelle européenne. Terre-Utile Lucas, quand on veut investiguer le sujet des statistiques agricoles, c'est bien adapté aussi. Donc... voilà, je dirais que sur des données plus locales, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on va produire un socle et il sera possible d'aller plus loin localement avec des données un petit peu plus raffinées qui pourront être produites localement. Voilà un petit peu la philosophie de cette mise en place.
On a encore une question ?
Oui, alors je vais me lancer, mais je ne sais pas trop si on a des réponses à ces sujets-là, parce que ça a à voir aussi avec le projet de loi climat et résilience. Par rapport aux définitions de l'artificialisation par l'usage, donc Philippe nous dit que le projet de loi climat définit l'artificialisation par l'usage et que l'approche par photo aérienne permet plutôt de caractériser l'occupation des sols. Et un autre auditeur nous dit aussi que les notions de consommation d'espace sont celles retenues dans les documents d'urbanisme. Donc on a bien compris qu'au travers de l'OCSGE, on allait avoir une approche précise par l'occupation du sol, mais... est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur l'articulation entre toutes ces dimensions ?
Je crois que là, je vais poser un joker parce que la définition n'est pas stabilisée dans le cadre du projet de loi. Donc, elle repose actuellement en entrée au Sénat sur les fonctions des sols. Fonction hydrique, fonction biologique, fonction climatique, potentiel agronomique. Donc pour ceux qui ont regardé un petit peu le projet de loi, on ne sait pas du tout comment la définition sortira après son passage au Sénat. Après, il y aura encore une commission mixte Sénat-Assemblée nationale. Donc ce serait un petit peu hasardeux de se lancer sur un sujet comme ça. Maintenant, on va attendre la promulgation de la loi, c'est pour cet été.
Donc ça renforce encore l'idée de faire une émission sur ce sujet-là à la rentrée sur Radio Territoria.
Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend une dernière et on profite des 2 minutes qui nous restent ?
Alors, on avait une question, je vais remonter un petit peu. Sur le fil, on avait une question de Caroline qui nous disait que les fichiers fonciers sont énormément retravaillés par les agents de la DDTM pour aboutir à des projections fiables. Les outils proposés impliquent-ils que toutes ces missions ne seront plus nécessaires ? Je pense pas là, qu'on puisse répondre qu'on va mettre au chômage tous les agents qui sont sur ces missions-là.
Disons que... Alors, est-ce que tout ça sera nécessaire ? Bon, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse en direct aujourd'hui, mais en tout cas, la philosophie de tout ça, c'est quand même de simplifier le travail des agents, autant en service déconcentré que dans les collectivités. Qu'on soit plus sur l'analyse des résultats et la lutte contre l'artificialisation que des questions de chiffres et de bataille de chiffres entre différentes parties prenantes. Voilà, c'est bien notre philosophie.
Merci Pascal, merci Michel. Je crois que la décision s'impose. On va devoir refaire une émission sur cet observatoire national de l'artificialisation des sols. En attendant, on va refaire un tour de table pour vous remercier Michel Feleb, chargé de mission animation territoriale au sein de la direction chargée de l'urbanisme, des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci pour avoir fait un peu le ménage dans toutes les questions. Il y en a qui se répètent, il y en a qui reviennent et il y en a auxquelles on n'a pas encore répondu, mais je vous promets, ça viendra tout de suite. Il faudra pour ça réinviter Pascal Lory. Merci à vous. Vous êtes conseiller information géographique et spatiale auprès de la directrice de la DGALN et vous êtes tout particulièrement en charge du projet de dispositif de mesure de l'artificialisation des sols dont vous êtes le directeur. Et puis nous avions en ligne Philippe Loriot. Merci à vous Philippe. Vous êtes, vous, chargé de mission auprès du directeur de la DDTM de la Gironde et vous êtes lauréat de la dernière saison de la Fabrique numérique des ministères en charge de l'écologie et des territoires avec le projet SPART, le service de portrait de l'artificialisation des territoires dont nous avons parlé. Un immense merci à vous trois. Cette émission est désormais disponible en podcast sur le site Radio Territoria, sur tous vos agrégateurs de podcasts, où vous retrouverez également eh bien, toutes les dernières émissions, toutes les précédentes émissions, tous les précédents numéros du MAC, de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. On se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.